Alors, nous nous trouvons aujourd'hui au Théâtre du Rond-Point pour rencontrer Pierre Note et Muriel Godin dans le cadre d'une toute nouvelle création intitulée
L'histoire d'une femme.
L'histoire d'une femme, donc qui se joue actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse jusqu'au 7 mai, si ma mémoire est bonne.
Oui, je crois que c'est ça.
Et sans doute au-delà, et en tout cas aussi une programmation prévue, je crois, au Festival d'Avignon, c'est ça ?
C'est ça, au Théâtre des Trois Soleils.
Super. Alors moi, je suis là pour faire partager le plaisir que j'ai pu avoir à découvrir ce spectacle. Donc tout un chacun pourra découvrir ce que j'ai à en dire sur la partie écrite de cette chronique. Aujourd'hui, on a quand même le plaisir d'avoir les deux principaux protagonistes. Donc c'est eux qui vont essayer de donner envie à nos lecteurs et auditeurs d'aller voir cette pièce. Alors je vais commencer par Pierre, à tout honneur, tout seigneur tout honneur, parce que c'est quand même l'auteur et le metteur en scène. Donc vous avez voulu embrasser la cause féministe en rédigeant ce texte. Est-ce que c'est important que des hommes prennent la parole sur ce type de sujet ?
Il me semble important que tout le monde prenne la parole sur ce type de sujet, les hommes comme les femmes, et tout le monde, quel que soit le sexe. La question, c'est vraiment toujours la place de l'individu dans la société, quand il est une femme, quand l'individu est un individu, je ne sais pas, quand il appartient à une sorte de... À une minorité, c'est étrange de dire ça pour les femmes, à une catégorie de la population oppressée. Or, il m'a semblé à un moment donné observer que les femmes étaient particulièrement oppressées dans la société. Et c'est la pièce, j'ai voulu traiter à travers cette pièce cette question de l'oppression des femmes à travers des allusions, à travers des humiliations, à travers des violences, à travers des figures d'hommes. Le patron, le frère, le père, le compagnon, le salopard dans le métro, le frotteur, le masturbateur, le très jeune homme, le très vieil homme, à travers des figures d'hommes qui sont toutes, toujours à l'égard de la femme, d'une manière ou d'une autre, dans la violence, dans l'agression, dans l'humiliation, dans l'insulte, dans la dégradation. Donc c'est une question qui concerne évidemment tout le monde, les femmes comme les hommes. Il y a des femmes terriblement misogynes et machistes, il y a des hommes qui embrassent la cause féministe d'une manière ou d'une autre. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est à Muriel qu'on doit ce projet, puisque c'est elle qui est venue me parler d'une idée, d'un travail ensemble. Et c'est tombé sous le sens qu'on allait travailler ensemble sur cette question-là de l'histoire d'une femme qui décide de s'opposer à cette sale habitude qu'ont les hommes de se considérer seuls au monde.
Alors, ce qui est intéressant aussi, qui fait peut-être aussi l'originalité du texte, c'est que c'est une forme de racisme ordinaire. C'est pas forcément des situations extrêmement spectaculaires, mais ce sont aussi des petits riens du quotidien qui empoisonnent finalement la vie des femmes par des choses qui sont... on va dire entendu dans la société, considéré comme normal, et on finit par oublier complètement que ça peut être justement à connotation très machiste et anti-femme.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je travaillais hier soir avec une comédienne dans un groupe d'amateurs avec lequel je mène un atelier, qui me disait qu'elle allait venir voir la pièce. Et elle me disait « Oh, mais moi, je connais pas du tout ce genre de choses. J'ai jamais connu ça, les hommes misogynes. On dit ça tout le temps, mais moi, je n'ai pas cette impression. » Et puis elle disait « Enfin, évidemment, ça m'est arrivé. Évidemment, j'ai connu ça. » Puis après, elle s'est mise à faire la liste des différentes agressions qu'elle a fréquentées, qu'elle a connues. Et en fait, elle disait qu'elle ne vivait pas dans un monde misogyne et phallocrate. Et elle faisait la liste des agressions journalière qu'elle connaît comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acceptation aveugle, je ne sais pas, sourde, quelque chose un déni de réalité extraordinaire de la part de tout le monde, qui fait qu'on semble accepter de vivre dans une société qui maltraite en permanence un certain nombre d'individus, soit des minorités oppressées, soit là en l'occurrence il s'agit des femmes, mais c'est parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, douloureux, difficile et particulièrement éclatant, la misogynie qu'on a entendu à l'égard des femmes politiques, que ce soit Ségolène Royal, Martine Aubry, Christiane Taubira, ben c'est quand même inouï ce qu'on se permet de faire, de dire, sans, dans une impunité. Et puis toutes les femmes que je connais, les amis, la famille, me racontent sans cesse les différentes oppressions vécues, les différentes humiliations, des anecdotes, des faits divers. Et la pièce voulait raconter à la fois le racisme très ordinaire, invisible, sourd, dont sont victimes les femmes, et puis aussi une autre... d'autres formes d'agression, plus violentes, plus difficiles, plus douloureuses, plus physiques aussi, que les femmes connaissent chaque jour.
Alors Muriel, justement, vous qui êtes à l'origine un petit peu de ce projet, si je comprends bien ce que nous explique Pierre, est-ce que vous vous êtes retrouvée dans les mots qu'il a choisis en tant que femme, précisément, parlant de la cause féministe, ou en tout cas de ce sujet de la femme au sein de la société ?
Oui, bien sûr. Plus le travail avançait, plus je me suis reconnue dans ce texte, parce que c'est toutes les femmes qui sont concernées par ce texte, enfin, je veux dire, toutes... aussi les hommes, bien sûr, hein, ça questionne les hommes sur leur façon de vivre par rapport aux femmes. Mais c'est vrai que moi, j'étais peut-être aussi dans une sorte de déni, c'est-à-dire que je pensais que, voilà, que des choses étaient acquises et qu'on vivait bien homme-femme, qu'il y avait des petits... Et finalement, grâce à ce texte et par le travail de cette langue, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais intégrées malgré moi et qui avaient un effet néfaste sur mon rapport au monde, sur mon rapport aux hommes, aux autres femmes aussi. Et c'est ce texte-là qui m'a permis de découvrir tout ça.
Mmh. On finit par s'accommoder des choses.
Voilà, exactement. On finit par ne plus s'en rendre compte, les intégrer, vivre avec, trouver ça normal. Et oui, c'est ça, les intégrer.
Mmh. Alors, moi, ce qui m'a un peu interpellé, et je me suis posé la question de savoir si c'était peut-être un jeu de l'auteur que d'avoir choisi ce titre, c'est l'histoire d'une femme ou ça a une portée plus universelle ?
Oh ben, je pense que oui, ça a une portée universelle. C'est l'histoire d'une femme, mais c'est de toutes les femmes. C'est toutes les femmes qui vivent ça à différents degrés. Effectivement, il y a des agressions plus violentes et d'autres plus sourdes. Mais toutes ces agressions-là, la place de la femme, elle est, enfin, je pense, la même pour tout le monde. Après, chacun se bat avec les armes qu'il a. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre ce texte. C'est important, c'est parce qu'il nous donne des... Voilà, des clés de compréhension, mais c'est oui, c'est l'histoire de toutes les femmes.
Alors, moi, j'avais une petite suggestion à faire à Pierre, c'était de mettre un F majuscule au mot femme dans le titre. Ça pourrait être un petit clin d'œil, un peu grossier, certes, mais moi, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait une portée très universelle au propos.
Mais c'est très gentil, mais je suis pas du tout d'accord avec ça, en vérité, parce que je trouve que c'est véritablement l'histoire d'une femme, et non pas une histoire de femme, et pas l'histoire de la femme, mais bien une histoire de femme avec un conte. Il s'agit bien d'une fable, il s'agit bien d'une anecdote assez précise, l'histoire d'une femme qui décide de se taire face aux hommes, qui décide de ne pas leur rentrer dans le chou, de ne pas entrer dans la guerre contre les hommes, de ne pas répondre aux hommes, de ne pas se battre contre les hommes, de ne pas accepter ce qu'elle reçoit d'eux. Donc elle finit par simplement se taire, mais elle veut comprendre comment ça marche, le désir des hommes, la violence sexuelle de la part des hommes, le besoin de fourrer toujours son machin quelque part, le besoin de toujours pleinement satisfaire sa sexualité. Elle a envie de désirer, elle a envie de jouir, elle a envie de connaître le plaisir, elle n'a pas envie de renoncer aux hommes, elle veut comprendre comment ça marche. Et elle décide de ne plus leur parler. Ça les rend dingues, les hommes. Donc elle provoque le cataclysme autour d'elle parce qu'elle décide de se taire. Ensuite, une fois qu'elle s'est tue, et c'est Muriel Godin qui parle et qui prend la parole tout le temps pour raconter que c'est bien l'histoire d'une femme précise qui décide de se taire, elle va essayer de comprendre comment les hommes fonctionnent avec leur machin, leur sexe, leur pénis, du côté du médecin psychiatre, du côté des bordels pour hommes, du côté du sex shop, du côté du buraliste, du côté des magazines de sexe. Elle va essayer de comprendre comment ça marche un homme. Ça va rendre là aussi les hommes assez fous, et notamment son compagnon qui ne comprend plus rien. Et puis, elle va peu à peu se réconcilier avec les hommes à travers la figure très jeune d'un gamin qui est un collégien, qui n'est ni un homme, ni un jeune homme, mais vraiment un adolescent ou un préadolescent en qui elle voit de l'innocence, en qui elle retrouve une sorte de possible foi en l'humanité. Et c'est bien une histoire de femme qui ensuite va mettre le feu, qui ensuite va brûler tout autour d'elle, qui va aller emmerder ses collègues de travail en jetant des bestioles dans un open space. Donc il y a véritablement le conte théâtral, la fable, l'histoire d'une femme, d'un personnage en particulier, qui, je l'espère, et ça me touche évidemment, j'espère qu'elle devient une figure de la femme. Mais c'est avant tout un personnage de femme qui raconte une histoire de femme.
Très bien. Alors justement, vous évoquez ce personnage très particulier qui vient quelque part donner de l'espoir à cette femme qu'on trouve un peu résignée, hein, je crois, dans les premiers instants de l'histoire, ou en tout cas très interrogative, si ce n'est résignée, mais il y a une forme de refus d'aller au combat, justement, et puis il y a des choses qui vont changer. Et est-ce que, précisément, dans l'esprit du texte, c'est la rencontre avec ce personnage en particulier qui va la faire basculer vers une autre attitude ?
Ce qui a déclenché l'écriture de la pièce et le projet de la pièce, et qui va déclencher la pièce elle-même, c'est un geste auquel j'ai assisté, l'histoire d'un homme à vélo qui tout d'un coup va donner une claque sur les fesses d'une femme. Et il fait ça avec une légèreté, une insouciance, une légèreté. C'est un gamin qui fait une bêtise, qui se retourne sur la femme et qui rit. Il ne se rend pas compte, je l'ai vu rue du Faubourg Saint-Honoré, un homme que ça amusait d'aller claquer les fesses d'une femme, et il partait comme ça. Mais ce qui m'a le plus frappé dans ce geste, c'est la légèreté de cet homme qui ne se rendait pas du tout compte de la violence de son geste et de son attitude. La femme, il est parti à bicyclette, il était loin quand la femme, elle, est tombée et s'est mise à pleurer. Donc en fait, la légèreté du geste a provoqué un cataclysme chez cette femme, dont je ne sais pas si elle s'en remettra, parce que c'était quand même très très violent. Et en fait, c'est ça qui, chez elle, va provoquer la chute. Dans l'histoire d'une femme, tout part d'une femme qui accumule les violences, qui ne répond pas aux violences, qui les subit toutes, et qui à un moment donné tombe parce qu'elle ne peut plus répondre à ça, ni par les mots, ni par les gestes, ni par la violence, ni par la guerre. Elle ne peut pas répondre, elle ne veut pas répondre aussi, elle refuse de répondre. C'est ça son combat à elle, c'est qu'elle refuse de répondre à toutes ces violences auxquelles elle assiste et qu'elle subit. Et ça la pousse au silence, elle choisit le silence, et les hommes deviennent fous, et tout le système à ce moment-là, masculin, machiste, phallocrate, misogyne, s'enraye autour d'elle, parce que tout d'un coup, la victime idéale, la proie facile, refuse de participer à ce jeu lamentable des hommes.
Très bien. Alors, ce qui m'a un peu... non pas surpris, mais en tout cas interrogé, c'est la référence à Virginia Woolf dans le dossier de presse. Je ne sais pas si c'était très choisi, très volontaire, mais moi, ça m'a posé question en ce sens que Virginia Woolf a réussi à s'imposer dans un univers aussi où les femmes n'étaient pas si souvent acceptées. Et elle a quelque part fait de son problème de santé, de sa folie, un combustible aussi pour son écriture. Et j'ai trouvé que dans le texte, il y avait quelque chose qui s'apparentait un peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de flux très important de paroles, et on a l'impression que c'est la manifestation aussi des pensées du personnage principal qui est confronté à tout un tas de situations qu'elle ne sait plus très bien gérer. Est-ce que cette référence, justement, à Virginia Woolf est à la fois sur cette cause un peu féministe qu'elle a pu aussi embrasser à son époque, et puis cette manière assez particulière qu'elle avait de livrer dans l'écriture ce qu'elle vivait de manière intérieure?
Sur la référence en elle-même, je ne sais pas, hein, c'est Pierre qui a choisi cette... Par contre, sur le flux de la parole, c'est vrai qu'elle donne... Enfin, la parole est donnée beaucoup aux hommes. Elle choisit de se taire. Mais ce flux de parole, il était là parce que, oui, parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol, de combat qui s'instaure, et on ne pouvait pas l'envisager autrement que dans cette tension permanente, dans l'absence de victimisation. Il faut vraiment qu'elle comprenne. C'est une vraie quête. C'est pas un échec. C'est pas un abandon. Au contraire, c'est une volonté de chercher à comprendre. Et la parole est là pour la parole qui n'est pas la sienne, hein, qui est surtout celle des hommes. Elle est là pour raconter ce ras-le-bol qu'elle vit.
Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout sauf un monologue, même s'il n'y a qu'une personne sur scène, et vous parvenez par quelques subtilités de jeu, d'attitude, de sourire, de mouvement de tête à incarner toute une kyrielle de personnages. Comment vous avez réussi à mettre ça en musique avec Pierre ?
Alors, ce travail, il s'est fait sans qu'on... Enfin, on ne s'est pas dit, on va incarner les personnages comme ça, on va faire des compositions et tout. C'est petit à petit, surtout par ce qui était dit dans le texte, les situations, qu'on a essayé de trouver la musicalité du texte, le rythme, la situation. Après, des analogies, on a travaillé, enfin, voilà, on a imaginé que tous les personnages étaient des animaux, par exemple, pour essayer de leur donner une couleur différente, mais on n'a pas fait de... Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir fait des compositions assez développées des personnages, mais de faire confiance à ce qui se racontait et qu'on entende déjà les situations, ce que veulent l'homme sur la femme à tel ou tel moment, et que de l'écriture jaillit le personnage parce que c'est écrit d'une façon claire. Enfin, le personnage est dessiné par la façon dont il est écrit.
Absolument, et c'est bien ça que je faisais référence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice très important tenant au costume ou aux lumières ou à une manière de prendre une autre voix pour bien montrer qu'on est en train d'incarner un nouveau personnage, mais c'est justement en s'appuyant sur le texte lui-même et ce que ça raconte, étape par étape, que justement, on va dire, le profil des différents personnages se dessine.
Oui, c'est ça, c'est... C'est vraiment le texte, enfin, on est vraiment parti du texte, hein. Les choses se sont dessinées petit à petit. Après, on a essayé au niveau de créer des tableaux assez simples, assez purs, pour donner à entendre le combat, l'affrontement qui existe entre tous les personnages.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, en prémisse de cette interview, on parlait un petit peu des évolutions que vous faites au niveau des lumières. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la mise en scène, la scénographie, vos choix ?
Pour rejoindre ce que disait Muriel et ce que vous disiez tous les deux, c'est qu'en fait, on a quand même vraiment décidé, au moment de la première approche du texte, le premier jour du travail, on a décidé de faire confiance au spectateur aussi, c'est-à-dire de le laisser travailler, imaginer, visualiser les figures dont il était question, les figures masculines. Muriel, on s'est emparé de ce texte avec Muriel, qui au départ est un texte très dialogué. C'est une femme en proie à une cinquantaine d'hommes, tous très différents, scène après scène. Et le texte qui existe, qui est publié, est un texte dialogué. On l'a transformé en monologue pour raconter l'histoire d'une femme qui finit par se taire, et qui se tait face aux hommes, mais ce sont bien les hommes qui parlent, et c'est bien par la voix de Muriel que les hommes parlent. Mais il n'était pas question de singer, d'imiter, de se transformer, il était question de créer une chorégraphie des tableaux, des différentes relations qu'elle a avec ces différents hommes, des différentes humiliations subies, de transformer ces hommes en figures assez fortes, assez chorégraphiées, assez grossières, assez lisibles, pour avoir affaire à des figures et non pas à des personnages, parce que l'imitation ne nous intéresse pas tellement, mais avoir des sortes d'énergie ou d'enjeux assez lisibles, assez visibles, pour que le spectateur puisse tout imaginer, tout visualiser. Donc le travail a d'abord consisté à créer cette chorégraphie avec la bouteille, avec le verre, avec la table, avec la chaise, avec des mouvements du corps de Muriel qui racontent des dialogues, en effet, qui évoquent des dialogues à travers un monologue, et des personnages, des figures, disons plutôt des figures assez fortes pour qu'on puisse les visualiser, les comprendre, et les entendre, et voir les lieux aussi, puisqu'il s'agit de lieux très différents à chaque fois. Il y a un parc, il y a un café, il y a un hôpital, il y a un bureau, il y a un open space, il y a la maison, il y a l'appartement, il y a le couloir, il y a l'ascenseur, il y a différents endroits que les lumières permettent de visualiser. Mais justement, on a décidé de changer un peu ces lumières depuis le jour de la création, vous l'avez vu, parce que les lumières étaient presque un peu trop pédagogiques. Et on souhaite que le spectateur travaille tout le temps avec nous, qu'il imagine, qu'il visualise, et qu'il ne soit pas totalement pris en charge par des signes qui lui donneraient tout à voir, mais qu'il ait tout à imaginer encore.
Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est partagé par les autres premiers spectateurs, parce que vous en êtes dans les toutes premières représentations de ce spectacle, mais justement, alors que vous n'êtes que toute seule sur scène, j'ai trouvé une dimension assez cinématographique à ce que je voyais, à telle enseigne que je me suis même posé la question de savoir si ça pourrait pas faire l'objet d'une adaptation sur grand écran sous forme, je ne sais pas moi, de film à sketch ou ce type de choses. C'est quelque chose à laquelle vous avez pensé quand vous avez créé le spectacle, ou pas du tout ?
Non, en ce qui me concerne, pas du tout. Muriel, je ne sais pas si vous avez
pensé. Non, mais vous êtes la troisième personne qui me dit ça, effectivement, que c'est... ce serait un projet très cinématographique.
Mais ah, je trouve qu'il y a quelque chose de,
mais c'est curieux parce que pour nous c'est évidemment théâtral, puisque oui, c'est vraiment une comédienne seule en scène avec son corps, son énergie, sa puissance, avec une générosité, une rythmique, une musique tout à fait théâtrale, pas du tout réaliste, jamais vériste, avec un spectateur qui est là face à nous, avec lequel d'ailleurs on commence plutôt par un jeu pour être dans une relation de séduction heureuse, simple et conviviale, parce qu'après il va quand même se fader 1h05 d'un texte qui ne va pas cesser une seconde, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos, quasiment pas. Il y en a un petit peu, mais c'est quand même éminemment théâtral, et la puissance de Muriel, sa voix, son corps, son énergie, la sueur, c'est du sueur, du sang et des larmes quand même. Il y a vraiment de ça, c'est une pièce de guerre d'une femme face aux hommes. Alors, moi, je ne trouve pas du tout qu'il y ait quoi que ce soit dans tout ça de cinématographique, mais je pense qu'il y a quelque chose du scénario, en fait, puisque ce qu'on visualise, nous, en tant que spectateurs, c'est finalement tout un cinéma qu'on se fait de tout ce que tu nous racontes.
C'est absolument ça.
Je trouve ça très passionnant.
C'est absolument
parce que,
ça.
En plus, l'écriture n'est pas tellement maniérée.
Elle va droit au but.
C'est une écriture très, très droite, très concrète, très précise. Il m'arrive d'écrire plutôt des contes avec des phrases impossibles de 4 à 5 pages. Là, pour le coup, c'est une écriture très concrète, très droite, très quotidienne. Donc peut-être que ça relève...
Sharp, comme diraient les Anglais.
Et puis les situations sont fortes, elles sont souvent prises en cours de route, et donc c'est vrai que tout de suite, le spectateur, son imaginaire travaille en voyant ces scènes-là.
C'est ça.
Mais c'est vrai que l'interprétation, les choix qu'on a faits ne sont pas du tout réalistes. Enfin, on n'assiste pas au dialogue entre deux personnes, on assiste à une femme qui raconte ce dialogue-là, donc avec sa façon à elle et son...
Effectivement, mais la puissance du texte et du jeu fait que immédiatement on a l'image qui se génère dans notre esprit au fur et à mesure justement des tableaux que vous évoquez. Donc ça, je trouve que c'est une belle réussite. Alors donnez envie à nos lecteurs d'aller voir ce spectacle en quelques phrases.
Que dire, c'est ce qu'on a fait de mieux. On est très fiers, nous, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Nous, on a envie d'être avec des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait là, je crois, Muriel et moi. On a travaillé très peu de temps à la maison, avec la chaise et la table. Ça s'est précipité. On va jouer au Festival d'Avignon, là où on joue au Théâtre de Poche. Je crois qu'on est, elle comme moi, on s'est jamais rencontrés avant. On s'est rencontrés sur ce projet-là. On se connaît à peine, mais on s'est dévoilés totalement l'un et l'autre autour de ce machin-là. Je crois que c'est devenu aussi essentiel pour elle que pour moi, aussi important, parce qu'on a là quelque chose qui semble toucher les premières personnes qui sont venues nous voir. Je crois que ça, c'est un geste, pour moi en tout cas, particulièrement important de questionner la place dans la société d'une femme sans cesse malmenée par les hommes.
Très bien. Et alors, Muriel, est-ce que vous avez fait un peu des études statistiques sur les premières représentations? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a un dialogue justement qui s'établit à l'issue des représentations? Moi, je n'ai pas pu rester très longtemps parce que je voulais voir justement votre attaché de presse suite à la représentation, mais il y a un petit jeu qui s'est opéré avant la représentation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la sociologie de ces personnes qui viennent vous voir?
Alors, je n'ai pas remarqué qu'il y a plus de femmes dans les spectateurs et j'ai été assez, pas surprise, parce que moi, je pense que c'est un texte qui parle beaucoup aux hommes, mais on m'a fait ce retour-là, notamment notre producteur et d'autres gens qui m'ont dit que c'est un texte qui questionne beaucoup les hommes sur la façon dont soit un homme mon fils, les choses qu'on leur a dites toujours, et donc la façon dont ils se questionnent eux sur leur rapport aux femmes, même s'ils ont l'impression que voilà qu'ils sont pas machistes et tout ça. Je trouve que les hommes sont très touchés par ce texte aussi, sans être eux-mêmes la cible de cette misogynie ordinaire.
Et est-ce que certains ont le courage de dire que le texte les a un peu bousculés, les a incités à être peut-être un peu plus vigilants à un certain nombre d'attitudes, de propos qu'ils peuvent tenir,
oui.
Quelquefois même sans malveillance, mais simplement parce que on ne fait pas attention.
Oui, bien sûr, sur tout ce qui est de l'ordre de la misogynie invisible, bien sûr. Après, sur d'autres scènes beaucoup plus violentes, je pense que certains ne se sentent pas concernés, et c'est bien normal. Oui, beaucoup m'ont dit qu'effectivement, les jeunes générations, enfin les gens jeunes aussi ont l'impression, voilà, qu'ils considèrent les femmes comme leur égale, mais qui se rendent compte par ce texte qu'il y a beaucoup de petites choses qu'ils font aussi et dont ils ne se rendent pas compte.
Formidable, c'est déjà un bel objectif atteint et on espère qu'il va y avoir un effet de démultiplication de ce type de changement de prise de conscience chez la gente masculine. Pierre Note, Muriel Godin, je vous remercie infiniment pour ce temps et puis je vous souhaite tout le meilleur pour ce spectacle.
Merci beaucoup.
À bientôt. Beaucoup.